Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Pénurie de carburant à Kinshasa, c'est depuis quelques jours déjà. Hier, par exemple, des longues files de véhicules étaient visibles dans certaines stations-service. Tout en reconnaissant la dette pétrolière, le ministre des Hydrocarbures rassure la situation reviendra à la normale sous peu. Didier Boudimbou est l'invité de ce journal. Toujours pas de date pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cela, une semaine après le report inédit de ce scrutin, le député Didier Kamundu menace d'activer la procédure de destitution du bureau d'âge si le bureau définitif n'est pas installé dans un bref délai. Et puis, dans l'actualité aussi, cette visite à Beni de la nouvelle représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, chargée de la protection et des opérations, Madame Viviane Van de Perre, a rencontré hier le maire de Beniville au menu des échanges, notamment la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Madame, Messieurs, bonjour. À Kinshasa, il s'observe depuis quelques jours une pénurie de carburant dans plusieurs stations-service. Hier, des longues files de véhicules ont été visibles dans les stations telles que Total Energy, Kobil et Sona Hydroc. Les conducteurs des véhicules qui éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en carburant en appellent à une réponse idoine des autorités. Retour sur la journée d'hier lundi dans ce reportage de Murphy Fika, Alpham Poissa et Elvi Kunga.
Il est 11h passé, nous sommes sur première rue Limitée à la station de service Sona Hydroc. Des longues files de véhicules en attente d'être approvisionnés en carburant. La seule pompe encore en service est entourée par les chauffeurs de toutes catégories qui se bousculent pour avoir cette précieuse liquide. Kemi Mukendi, moto-taximène rencontré sur les lieux, déplore cette situation.
Je suis à la station service depuis 4 heures du matin. Je ne suis pas encore servi. Les pompistes nous demandent l'argent avant d'être servis pour des raisons que nous ignorons. Il n'y a pas un prix fixe, tantôt 4 000 francs, tantôt 5 000 francs congolais.
La même situation est observée à la station de service Total Energy de l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe. Par contre, chez Kobil de l'avenue de la Justice, il n'y a aucun véhicule. Les pompistes nous ont fait savoir qu'il n'y a pas de carburant. Les usagers de la route ne savent plus à quel sens s'est voué en appel à l'implication des autorités congolaises.
Est-ce que les autorités sont vraiment au courant de cette situation? Que le ministre des Hydrocarbures s'implique personnellement, car nous souffrons beaucoup.
En attendant la réponse du gouvernement congolais, les chauffeurs des taxis et taxibus doivent garder leur mal en patience.
Tout en reconnaissant la dette pétrolière, le ministre Didier Boudimbou des Hydrocarbures affirme que le problème actuel est plutôt logistique suite à la modification des horaires de travail de la CEP qui ne livre plus le carburant la nuit et en week-end. Il rassure que la situation va revenir à la normale sous peu. En Ituri, la société minière de Kilomoto Sokimo a relancé depuis la semaine dernière la production et le traitement de l'or dans son site minier à Nizi. Nous sommes à environ 25 km au nord de Bunia, territoire de Djougou. C'est grâce à l'acquisition des nouveaux équipements et engins dans l'usine de traitement des minerais qui est opérationnelle depuis vendredi. Selon le comité syndical de cette entreprise, ce projet de relance va permettre à la Sokimo de disposer des ressources nécessaires en vue de relever des nombreux défis dont les arriérés de salaire des agents. Isaac Remoyope.
La Sokimo a acquis de nouveaux engins de production de minerais dont un excavateur et des camions ben pour l'exploitation de l'or dans son carré minier à Nizi où il y a une grande réserve de tellis ou des rejets d'un ancien gisement. Cette entreprise s'est dotée aussi d'une usine moderne de traitement de l'or ainsi qu'un laboratoire chimique. Certains bâtiments pour ces projets qui étaient déjà vêtis ont été également réhabilités par les fonds propres de l'entreprise, a déclaré le directeur général de la Sokimo. Il annonce la production des premiers lingots d'or dans quelques mois. Pististe au collet Bonongo.
C'est un grand jour pour la Sokimo car ça fait 3 décennies depuis les années 90 que la Sokimo ait ses propres engins. Pour la production d'un premier lingot d'or, nous l'attendons dans quelques jours qui arrivent.
Les minerais traités seront vendus au marché international, affirment des sources de la Sokimo qui a le mandat de production, traitement et commercialisation de l'or. Les comités syndicaux saluent cette action du nouveau comité de gestion de cette entreprise qui permet la relance des activités après plusieurs années de l'étranger. léthargie, mais aussi de générer des recettes pour répondre aux nombreux défis et résorber le chômage des jeunes à risque dans cette province en guerre. Pour rappel, les agents de cette entreprise estimaient environ 2000 personnes acquises plus de 80 mois d'arriéré des salaires. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Je vous le disais en titre, une semaine après le report de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le calendrier réaménagé n'est toujours pas connu. Le député Didier Kamundu menace d'activer la procédure de destitution du bureau d'âge si le bureau définitif n'est pas installé dans un bref délai. Dans une correspondance adressée aux députés, l'élu de l'Union sacrée s'insurge contre la léthargie à l'Assemblée nationale avec près d'un mois de chômage des députés alors que la République tourne au ralenti depuis 5 mois maintenant. La dynamique pour le vigile du mandat, Divma en sigle, dénonce pour sa part le blocage de l'installation du gouvernement et de tout un pays en guerre où la souffrance de la population a déjà atteint le niveau inquiétant pour des intérêts jugés égoïstes des membres qui dirigent le bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Michel Kifindangoy.
Dans une interview accordée à Radio Okapi, la dynamique pour le vigile du mandat dénonce le blocage par le président du bureau d'âge de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale en dépit de la misère dont sont victimes les Congolais. Yves Biasalou, coordonnateur national de la DIVMA.
Les élections, l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale ne dépend pas de l'humeur du président du bureau d'âge. Cela est organisé dans le respect de la loi. Le gouvernement, avant qu'il ne puisse commencer le travail, il doit être investi par l'Assemblée nationale qui ne veut toujours pas installer son bureau. Ça, c'est très grave.
Ce qui pousse les députés de l'Union sacrée Didier Kamundu d'accorder 24 heures à Christophe Mboso pour débloquer les institutions, faute de quoi il risque sa destitution.
Il y a plusieurs moyens contraignants que nous pouvons actionner si le bureau d'âge ne va pas répondre en dehors 24 heures à notre préoccupation. Ça peut aller jusqu'à la destitution du bureau d'âge. À Goma, la situation est catastrophique. Sur les champs de bataille, nous ne faisons que perdre chaque jour des entités.
Didier Kamundu promet de mobiliser dans les heures qui suivent les autres députés afin d'obtenir dans le bref délai l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale.
En plus bref, notez que le gouvernement de la RDC exige des sanctions internationales contre le Rwanda à la suite des bombardements des camps des déplacés près de Goma au nord Kivu. Ces bombes attribuées aux rebelles du M23 que soutient Kigali ont fait une quinzaine de morts. Dans un communiqué publié hier lundi, le gouvernement congolais affirme, je cite, « Il est urgent que la communauté internationale prenne des sanctions politiques et économiques conséquentes pour contraindre le Rwanda à abandonner ses aventures terroristes et meurtrières sur les territoires congolais. » Fin de citation. Kinshasa dit par ailleurs s'est réservé le droit de tirer toutes les conséquences sur le processus de Luanda et appelle le facilitateur de prendre ses responsabilités quant à ce. Pendant ce temps, la nouvelle représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, chargée de la protection et des opérations, séjourne depuis hier à Beni au nord Kivu. Elle a rencontré le maire de Beniville le même jour. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire, la collaboration entre les autorités et la MONUSCO, ainsi que la phase de transition de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Le compte-rendu de André Kitenge.
C'est ce lundi matin que la nouvelle représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, chargée de la protection et des opérations, est arrivée à Beni pour sa toute première visite après sa nomination en février 2024. Immédiatement, la représentante spéciale adjointe est allée rencontrer le maire de la ville de Beni. Pour Viviane Van de Peer, il est toujours nécessaire de présenter les civilités aux autorités afin de les remercier pour la franche collaboration avec la MONUSCO.
C'est très important de me rencontrer avec les autorités avec qui nous travaillons étroitement avec la MONUSCO. Nous sommes ici pour aider l'autorité de gérer la situation sécuritaire pour la protection des civils.
Pour le maire de la ville de Beni, cette rencontre avec la représentante spéciale adjointe était opportune afin de lui présenter la situation sécuritaire. Le commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo.
Vous savez que madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de Nations Unies. Dans un premier temps, il devrait venir au niveau de l'hôtel de ville pour les civilités. La situation sécuritaire de la ville de Beni pour le moment est relativement calme.
André Kitenge, Beni Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi ce double meurtre survenu à Kinshasa. La famille de Madame Francine Toumba Kankonde réclame justice après la mort des deux de ses membres. Madame Francine et son fils Ismaël Moukeba, âgé de 25 ans, habitant Yoloézo dans la commune de Kalamu, ont été criblés de balles la nuit de vendredi à samedi dernier. Des policiers armés et cagoulés sont pointés du doigt dans cette affaire. Maître Ramazani Chabani, avocat de la famille, raconte.
Le vendredi, un groupe de policiers cagoulés ont fait irruption sur l'avenue Ezo devant la parcelle de Madame Francine où ils ont arrêté son fils Moukeba Chilomba Ismaël. Quand la dame a été alertée, il est parti rejoindre la troupe de la police pour faire savoir que son enfant n'était pas Kolouna, c'est un universitaire et un joueur de football. Le garçon a brandi ses cartes, ses policiers n'ont pas voulu suivre. Craignant pour la sécurité de son fils, la dame a décidé de les suivre. Toute la nuit, ils ont été portés disparus. C'est seulement au matin que les enfants qui sont restés à la maison ont appris que leur maman a été retrouvée sans vie dans la commune de Makala sur l'avenue Bakongo et que leur frère était acheminé à l'hôpital blessé aussi par balle. Il a succombé le samedi. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un élément qui aurait été arrêté dimanche et placé à l'Ipekin. Ce matin même, nous venons de déposer une autre plainte contre inconnu chez l'auditeur militaire de Kinshasa Gombe pour que les malfrats soient appréhendés, punis et que justice soit faite.
Et en réaction à ce double meurtre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dédouane les policiers qui opèrent dans le cadre de l'opération Panthère Noire quant à l'accusation portée par une certaine opinion contre eux. Lors d'un point de presse tenu à son cabinet hier, Peter Kazadi signale qu'un groupe d'une dizaine d'individus habillés en tenue de police est cagoulé et c'est lui qui s'adonne à cette sale besogne. L'un d'eux est effectivement dans les mailles de la police et les recherches se poursuivent pour démasquer ces criminels. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur invite les habitants de Kinshasa à dénoncer et signaler toute présence de ces individus dans leur quartier. Peter Kazadi est au micro de Billy Van Lutumba.
Il revient des informations recueillies sur place et des sources non officielles que cet acte serait l'œuvre des agents de la police nationale mobilisés pour l'opération Panthère Noire, laquelle opération conduite par la Légion nationale d'intervention LENI en appui aux unités territoriales et qui a pour but spécifique la neutralisation des bandes criminelles qui insécurisent la ville de Kinshasa et ses environs. Or, lorsque vous regardez les faits pour que nous sommes en train de déplorer, vous constaterez qu'il s'agit des individus qui agissent en petits groupes. Lorsque vous voyez les gens agir en petits groupes, s'appelant Opération Panthère Noire, ils ne le sont pas. Ce sont des criminels qu'il faut dénoncer. Panthère Noire s'est fait de manière ciblée après récolte des renseignements et on remonte ça au plus haut niveau, on planifie et on choisit un jour où on descend pour attraper les malfrats.
Dans l'actualité, notez aussi la libération des deux agents de Kenya Airways détenus à Kinshasa depuis avril dernier. C'est ce qu'ont annoncé hier un haut responsable du ministère kényan des Affaires étrangères et une source de la compagnie aérienne citée par l'agence Reuters. Ces employés avaient été arrêtés par les services de renseignement militaire congolais le 19 avril, prétendument parce qu'ils manquaient des documents douaniers sur une cargaison de valeur. La compagnie n'avait pas embarqué cette cargaison parce que les documents de l'expéditeur étaient incomplets. En guise de réaction, Kenya Airways annonçait fin avril qu'elle suspendait ses vols à destination de la RDC. Selon elle, la détention de ses employés avait rendu difficile la prise en charge des vols par la compagnie.
Actualité internationale.
Nous sommes bien au Kenya. Le bilan des inondations continue de s'alourdir en raison des fortes pluies persistantes. Le gouvernement kényan annonce que le bilan humain des semaines d'inondations dévastatrices s'élève à 228 morts, 72 personnes portées disparues et plus de 212 000 déplacées. Le Kenya est toujours la proie des pluies torrentielles, risquant d'entraîner des nouveaux glissements de terrain et inondations. Le gouvernement a ordonné à toute personne vivant à proximité des principaux cours d'eau ou barrage de quitter la zone sous peine d'être évacué obligatoirement pour sa sécurité.
L'invité.
L'invité de ce matin, c'est le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, tout en reconnaissant la dette pétrolière payée à hauteur de 30% par le gouvernement congolais. Il affirme que la difficulté actuelle d'approvisionnement en carburant est plutôt logistique, après que la CEP Congo a décidé de ne plus livrer le carburant les soirs et les week-ends. Le ministre rassure que la situation va revenir à la normale sous peu. Le ministre Didier Boudimbou est avec Cynthia Bachizi.
Monsieur le ministre Didier Boudimbou, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors, les pétroliers éprouvent des difficultés pour se réapprovisionner en carburant à cause de la dette que l'État n'arrive pas à payer, c'est ce qu'ils disent. Une réaction ?
La réaction elle est simple. Actuellement, c'est vrai que le stock appartient aux fournisseurs, c'est souvent au pays. Logiquement, on n'est pas censé connaître les crises qu'on est en train de connaître à Kinshasa et à Matadi, mais je pense que la direction de CEP, ils ont eu à prendre une décision pour annuler les livraisons au niveau des stations de nuit et le week-end. C'est comme ça que, comme ce week-end, les stations n'ont pas été ravitaillées, ni les nuits précédentes. C'est ça qui a causé ce petit chaos-là à Kinshasa et à Matadi. Mais j'ai dû donner des instructions claires à CEP pour qu'ils puissent répondre les livraisons de nuit et des week-ends. Donc déjà cette nuit, la nuit de lundi à mardi, il y aura des livraisons et je pense que d'ici demain, la situation sera plus ou moins stable. Par rapport à ce que les pétroliers, quand ils parlent de paiement des manques à gagner, nous sommes en train d'y travailler. Il y a une réunion qui est prévue ce mercredi parce que nous devons voir avec les banquiers dans quelles mesures nous pouvons faire pour pouvoir enlever les fonds nécessaires pour pouvoir régler les manques à gagner au niveau des pétroliers. Et je pense que c'est parmi nos priorités aussi pour essayer de leur donner, pour que leur trésorerie puisse un peu respirer et que le service au niveau des stations et ailleurs puisse continuer.
Ils disent qu'aujourd'hui, l'État congolais n'a honoré que 30% de cette dette pétrolière.
Vous connaissez le pays comme le Nigeria, où ils sont parmi les grands producteurs de pétrole d'Afrique. Mais aujourd'hui, le prix du carburant a été multiplié par 3. C'est pour dire que les réalités sont, c'est-à-dire qu'un peu partout, le prix peut bouger. Mais le chef de l'État a insisté. On a augmenté que de 300 francs congolais parce que le chef de l'État ne veut pas que le carburant puisse bouger parce qu'une fois que le carburant bouge, ça va directement impacter sur les denrées alimentaires et sur le prix de transport en commun. Aujourd'hui, si on devait appliquer le prix pompe, on serait entre 6 et 7 000 francs par litre. Donc c'est l'État qui prend le reste. D'où l'ardoise, la facture, elle est quand même assez importante. Elle est plus ou moins 400 millions de dollars. On a payé 123 millions de dollars. Et là, nous sommes en train de travailler avec les banquiers. On va continuer les réunions pour pouvoir solder ce qui reste. Et ce sera fait.
Gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'il faut attendre que les problèmes se posent pour agir ?
Non, mais prévoir, c'est avoir assez de produits sur le sol national. Prévoir, c'est avoir tout ce qu'il faut pour ne pas tomber dans cette pénurie. Mais là, on ne peut pas prévoir quand CEP prend une décision sans nous avertir. Parce que je suis le patron du secteur. CEP, d'habitude, à chaque fois qu'il doit prendre une décision, ils me font une lettre. Et c'est à ce moment-là qu'on sait réagir pour anticiper. Mais ils ont pris une décision sans nous tenir compte, sans nous informer. Et on a été surpris, comme tout le monde, qu'ils avaient arrêté le service de nuit et de week-end. Mais logiquement, ils nous auraient informés. On allait tout faire pour que ça n'arrive pas.
CEP a décidé d'adapter ses horaires malgré les 2 millions que vous avez déjà versés à CEP. Chose que vous aviez dite il y a déjà quelques semaines.
Tout à fait. Et comme je vous l'avais dit, CEP a effectivement, ils ont accusé réception qu'ils ont déjà reçu les 2 millions. Mais comme eux voulaient qu'on puisse rajouter les 3 millions, c'est ces choses qui sera peut-être faites cette semaine. Ils ont anticipé, mais négativement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas accepté et qu'on ne peut pas accepter parce que voir maintenant les fils au niveau des stations, voir comment la population est en train de souffrir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc j'ai dû demander à CEP de pouvoir revoir sa décision et de pouvoir répondre les services de nuit et les services de week-end. Pour le reste, on va trouver des solutions. Après la réunion de mercredi, pour tout ce qui est argent, on trouvera des solutions et on pourra régler ce qu'il faut.
Il y a des économistes qui pensent qu'il faut peut-être aligner la subvention pétrolière comme une dépense obligatoire, au même titre que les salaires. Vous en pensez quoi ?
Ce n'est pas une mauvaise idée, mais vous savez que par rapport à tout ça, logiquement, on avait déjà des solutions. Même avec mon collègue des finances, le ministre Nicolas Kazadi, il y avait la solution qui avait été trouvée pour que tous les mois ou tous les 2-3 mois qu'on puisse éponger les manques à gagner de façon à ce que ça ne s'entasse pas comme ça, comme c'est les manques à gagner de toute une année et ça devient lourd alors que si vous payez mensuellement, ça vous fait peut-être 30 millions, 25 millions tous les mois et on a été tranquille. Mais malheureusement, il y a la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays et cette guerre est en train d'asphyxier nos finances, ce qui fait que même la trésorerie au niveau national, on le sait tous, il y a beaucoup d'argent qui part pour que nous puissions défendre nos compatriotes et notre sol. La solution était là, c'était mensuellement ou tous les 2 mois qu'il fallait payer. Et pendant un temps, ça a été fait, mais à cause de cette guerre, on ne sait pas suivre.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci madame.
Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, répondait aux questions de Cynthia Bachizi Nabizana. Ainsi prend fin ce journal. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.